Bonsoir à tous, donc, et je suis très heureux d'entamer ce nouveau cycle de conférences sur l'enfance. Je remercie donc l'Université populaire du Musée du Quai Branly et particulièrement Madame Catherine Clément pour cette invitation. Et je vais donc m'entretenir un moment avec vous de ce thème enfance et création. Je suis, comme certains le savent, à la fois auteur d'essais sur différents thèmes, dont ce thème de l'enfance, que j'ai traité longtemps au Collège international de philosophie, d'autres thèmes, les contes, le romantisme, le récit, mais aussi auteur de romans. Alors, ça peut paraître de domaines différents. Pour moi, il y a une véritable continuité. Et c'est vrai que, aussi bien dans les romans que dans cet essai paru chez Gallimard il y a quelque temps et qui s'intitule Enfance obscure, le thème de l'enfance me paraît majeur. Je dirais pourquoi et comment ce thème s'est imposé à moi. Donc, je vais parler de ces liens entre enfance et création. À partir d'une notion que j'ai eu du plaisir à développer, enfin qui m'a semblé importante à développer, et que je nomme l'enfantin. L'enfantin plutôt que l'enfance. L'enfantin que je définis comme cette persistance, cette insistance en chacun de nous, à tous les âges, quelle que soit la période de notre vie que nous ayons atteint, de perception, de sensation, de gestes, de vision, d'idées peut-être même, mais encore confuses, qui ont eu lieu en nous, peut-être longtemps avant même que nous ayons un accès au langage, longtemps avant que nous ayons une conscience individuelle un peu structurée de ces perceptions et sensations, mais qui se sont installés d'une façon puissante, énergique, peut-être même sauvage, et qui ont cette possibilité de revenir, de faire retour. J'ai appelé cet enfantin, tantôt en gardant ce concept d'enfantin, que j'oppose par ailleurs à l'infantile, que je redéfinirai tout à l'heure, mais je l'ai appelé quelquefois aussi, de façon plus peut-être poétique, l'enfant qui nous accompagne et qui ne cessera jamais de nous accompagner, qui est là, silencieux, et qui à certains moments peut se remanifester. Je l'ai appelé également l'enfantôme, c'est-à-dire l'idée d'une sorte de spectre enfantin qui est présent en nous et qui va ressurgir au moment le plus inattendu parfois, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui sera la véritable surprise, la véritable sauvagerie, la véritable effraction de la création artistique. L'enfantôme, l'enfant qui nous accompagne, l'enfantin, je l'ai également appelé quelquefois dans ce livre, notre préoccupant. Avec cette idée que cette enfance en nous est à la fois ce qui nous a occupés une première fois, le premier occupant de notre âme, mais aussi ce qui ne cessera jamais de nous préoccuper, sauf si, et ça peut arriver, cet enfant qui nous accompagne, nous avons choisi de nous en défaire, choisi ou pas choisi d'ailleurs, si cet enfant est, comme on dit quelquefois, mort en nous, s'il n'est plus réveillable, s'il n'est plus convocable, s'il n'est plus capable de surgir, et là, effectivement, aucune création ne sera possible. Cet enfantin n'est pas convocable à volonté, cependant. Et ces surgissements sont toujours des surgissements, soit aléatoires, soit par surprise. J'ai essayé d'évoquer, je lis un petit passage du livre, j'ai essayé d'évoquer, parce que cet enfantin nécessite, pour le faire sentir, pour le faire éprouver, nécessite des associations, nécessite d'en passer par des images. Un texte du début du livre, je le lis pendant quelques instants. Avec le temps, il arrive que le spectre frêle revienne nous hanter. Notre lassitude, nos moments de distraction, de demi-sommeil ou de rêverie favorisent ces apparitions. Il peut aussi revenir alors que nous sommes très occupés. C'est le spectre de l'enfantin. Il n'insiste jamais, il n'a aucune exigence, mais il se tient près de nous, silencieux. Quel que soit notre âge, il nous accompagne un instant, puis il disparaît. Remarquable discrétion de l'enfantin. D'ailleurs, il s'agit moins d'une apparition que d'une soudaine façon de sentir, à la fois incongrue et précise, accompagnée d'une impression de déjà perçu. Un geste que nous esquissons machinalement et qui semble habiter nos nerfs et nos muscles depuis toujours. Un élan soudain, une fraîcheur, mais aussi une frayeur parfois, ou une honte, ou bien la certitude de retrouver, au moment le plus inattendu, le grain d'une voix, une lumière, un goût, une odeur pourtant perdue depuis longtemps. Plein d'audace, nous osons tout à coup faire ou dire quelque chose dont nous ne nous serions jamais cru capables. Ou au contraire, nous avons brutalement le sentiment d'être complètement perdus, tout petits, traînant la misère de notre corps, qui ne connaît, qui n'a jamais connu cette déréliction secrète, à la fois vertigineuse et douce, cette solitude immense, hors les mots, sans commune mesure avec ce que la condition d'adulte nous a appris à nommer solitude. Certains jours, il se trouve que ça revient, mais par surprise. Faute de mieux, on dit qu'on se souvient de son enfance, mais l'enfantin n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les souvenirs d'enfance. Ces blocs de clarté, ces visions détachées de leur date, se dérobent le plus souvent aux récits même les plus appliqués et ne se manifestent qu'à travers cette façon brumeuse et décalée de considérer les choses. Donc, en ouverture de cet essai, j'avais essayé d'indiquer ce que j'entendais par cet enfantin. Et l'idée que je veux développer aujourd'hui, qui correspond à quelques chapitres du livre, est une idée extrêmement simple. La modernité a été caractérisée par d'abord une valorisation, je ne dis même pas une revalorisation, mais une valorisation de cet enfantin, une façon d'accorder de l'importance à l'enfance, par une vraie préoccupation de l'enfantin, et une des conditions de possibilité de la création moderne, je ne dis pas l'art moderne, je dis de la création moderne, ce serait plus juste encore de dire de la modernité créatrice, et précisément, se trouve précisément dans ce qui a été progressivement, qui a pris du temps, cette capacité culturelle d'accueillir l'enfantin dans tous les domaines, de la littérature à la peinture, de toutes les formes de création qu'on peut appeler moderne, il y a quelque chose qui se tient au cœur de la création moderne et qui relève de cette attention récente au fond. J'ai souvent cité dans, dans le livre cette idée selon laquelle l'enfance est d'une certaine façon une invention récente, eh bien, cette création moderne a en son cœur cet enfant obscur ou cette enfance obscure. Alors, afin de lancer un peu la réflexion, je voudrais citer d'une part un propos de Picasso auquel j'accorde beaucoup d'importance. Enfin, c'est une phrase connue, les phrases de Picasso finissent par être connues largement. Et d'autre part, parler d'un geste, un geste enfantin, celui de l'enfant qui dessine spontanément sur une vitre embuée. Ce geste et ce propos de Picasso me paraissent pouvoir lancer la réflexion. Picasso dit « Lorsque j'étais enfant, je dessinais comme Michel-Ange ou Raphaël. J'ai mis des années pour parvenir à dessiner comme un enfant. » Alors, cette phrase, évidemment, bien connue, aussi connue que toutes les phrases de Picasso, du genre « je ne cherche pas, je trouve », ou « quand je n'ai pas de rouge, je mets du bleu », ou l'inverse, elle est de toute façon extrêmement puissante. Parce que qu'est-ce que ça signifie « dessiner comme un enfant » Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce propos de Picasso, c'est que l'enfance paraît précisément être une conquête, et une conquête de l'artiste lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de l'artiste à se faire enfant, non pas à faire l'enfant. Et tout à l'heure, je serai très ferme sur deux idées que je combats, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas un artiste, et l'artiste n'est pas quelqu'un qui fait l'enfant. Et pourtant, Picasso nous dit « j'ai mis des années à parvenir à dessiner comme un enfant ». Alors, c'est dans ce « comme un enfant », de quoi s'agit-il dans la création ? De quel type de conquête s'agit-il ? Alors, nous partirons, nous aurons cette phrase pour nous accompagner. Et puis, deuxièmement, je voulais évoquer tout simplement en ouverture un geste, ce geste de l'enfant qui se trouvant, enfin ça peut être aussi n'importe quel d'entre nous, hein, parce que dès l'instant qu'on retrouve cette sorte de pulsion, que j'appellerais une pulsion figurante, nous nous trouvons face à la vitre embuée. Et là, il y a une espèce d'attrait ou d'appel qui va faire que nous n'allons pas pouvoir résister à dessiner quelque chose, à faire surgir quelque chose. Et le plus souvent, évidemment, ce sera un visage. Je sais que, personnellement, face à une vitre embuée, enfin, l'enfant, on va lui dire « attention, tu vas faire des traces sur la vitre, surtout dessine pas », mais bon, et on va faire surgir ce visage, avec toutes les merveilles qui s'ensuivent, à savoir que, au fond, les yeux que je vais avoir tracés sont des yeux qui vont assez rapidement pleurer, et quelque chose se passe. Il y a une sorte d'appel du support auquel l'enfant est sensible, et ici, quelque chose qui est une espèce de sauvagerie spontanée. C'est la même chose, je renverse la confiture sur la table et je vais avoir le besoin, enfin, en tout cas, moi, je sais que je l'éprouve comme ça, mais c'est encore un petit reste d'enfance, sans doute, de tracer dans la confiture quelque chose qui va surgir, comme si il y a un appel du support de la vitre embuée, il y a un appel aussi de la matière à touiller, à faire surgir quelque chose. Et là, on est aux origines du geste créateur. Picasso, d'ailleurs, pour revenir à lui et faire le parallèle, le disait constamment lui-même, enfin, qu'il ne pouvait pas se retenir face à une matière, un matériau ou un support, de faire surgir une forme ou un dessin. À savoir, vous savez que Picasso faisait, on en a gardé d'ailleurs un certain nombre, faisait des sculptures avec ses paquets de cigarettes, hein, il tordait le paquet de, de gitane, tant que c'était devenu une sculpture. Picasso avec de la mie de pain. Picasso à table n'arrêtait pas. Picasso à table créait en permanence. Avec de la mie de pain, il faisait une petite vache ou un petit taureau. Constamment, il était dans cette espèce de pulsion créatrice, pulsion figurante. Il y a un très beau texte à propos de cet appel du support et cette façon de céder à l'appel du support qui est chez l'enfant et qu'on va retrouver dans la modernité créatrice. Il y a un très beau texte de Henri Michaux qui est aussi, lui, tout à fait représentatif de cette écoute de l'enfantin dans la démarche créatrice. Michaux, poète, Michaux, peintre. Et Michaux, je vous lis rapidement le texte parce que je résiste pas, mais je le trouve toujours très beau. Michaux nous dit « Je dessine sans intention particulière, je griffonne machinalement, et il apparaît presque toujours sur le papier des visages. Menant une excessive vie faciale, on est aussi dans une perpétuelle fièvre de visage. » Michaux explique que dès qu'il a de la couleur, il faut qu'il fasse surgir des visages, tous plus... Dès que je prends un crayon, dès que je prends un pinceau, il m'en vient sur le papier, l'un après l'autre, 10, 15, 20. Et sauvages les visages, pour la plupart. Est-ce moi tous ces visages? Sont-ce d'autres? De quel fond venus? Je me jette sur le papier, je massacre, je rature, jusqu'à ce qu'il en sorte d'horribles figures. Face de perdu, face de criminel, ni connu, ni absolument étrangère. Visage sacrifié, des mois que la vie, la volonté, l'ambition, la cohérence étouffa et tua mes visages qui reparaîtront jusqu'à la fin. Et Michaux poursuit, vient de parler de cette fièvre de visage qui s'empare de lui dès qu'il a de la couleur ou de la matière. Michaux poursuit, visage de l'enfance, visage des peurs de l'enfance, dont on a perdu plus la trame et l'objet que le souvenir. Visage qui ne croit pas que tout a été réglé par le passage à l'âge adulte. Visage qui craignent encore l'affreux retour. Donc, je suis sensible dans ce texte de Henri Michaux, déjà poétiquement beau, mais à son évocation de son activité de peintre, qui est indissociable pratiquement de sa poésie, et à la façon dont il arrive à rendre ce besoin de visages sauvages, qui sont visages à peine esquissés, que n'importe quelle main humaine est capable de tracer, comment Michaux nous dit qu'il cède à cette pulsion-là. Alors, c'est de cela que partira ce que j'ai appelé, au fond, la démarche créatrice moderne, de cette écoute de pulsion de ce type, cette rage de visage, cette rage de faire quelque chose de la matière, sans souci, nous allons le voir un petit peu plus loin, sans souci de représentation, d'exactitude, de réalisme, etc., etc. Alors, je fais un petit détour. Je vais faire un petit détour philosophique, un petit détour par la philosophie, pour dire comment j'en suis venu à la question de l'enfance. Tout d'abord, parce que, disons, c'est par le biais de la philosophie que je me suis intéressé à l'enfance. Dans cet essai qui porte sur beaucoup d'autres choses, l'histoire, l'anthropologie, etc., etc., la littérature. Tout d'abord, en raison d'une certaine conception de l'être humain. J'ai tendance à penser qu'au cœur de tout être humain, ou peut-être même ce qui fait notre humanité, c'est notre dimension que j'appelle dimension d'énigme. Il y a au cœur de chacun de nous une énigme, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas réductible, quelque chose qui se dérobe à toutes les causalités. Et peut-être que nous sommes d'autant plus humains que nous sommes, au fond, sinon inexplicables, en tout cas jamais totalement explicables. Nous nous échappons à nous-mêmes, que nous échappons aux autres. Et ce trou en nous, pour parler peut-être ici aussi un peu comme Henri Michaud, cette énigme en nous, ou pour parler comme le titre de mon livre, cette obscurité en nous a quelque chose à voir avec cet enfantin dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette subsistance d'un type de perception, d'un type de percept, ou d'un type de, d'une certaine qualité de geste qui se sont installés en nous et qui demeurent alors que nous nous sommes au contraire socialisés, civilisés, etc., etc. Donc une certaine conception de l'être humain m'amène à être particulièrement attentif à cette question de l'enfance. C'est ce que je développais lorsque je faisais un séminaire au Collège de philosophie. La deuxième chose, c'est que la philosophie, dans, disons, et pour être assez quand même globale, la philosophie, appelons-la traditionnelle, dans la tradition philosophique, il y a une, soit une ignorance, soit une dévalorisation de l'enfance. La philosophie traditionnelle et classique, depuis très longtemps, et pendant longtemps, jusque sans doute à Rousseau, dont je vais dire quelques mots, la philosophie a ignoré l'enfant, ou elle a considéré qu'il était soit dangereux, soit relevant de quelque chose de pas encore humain, c'est-à-dire qui échappait à la fois au rationnel. Et par exemple, si on commence par Platon, pour Platon, il y a vraiment cette idée qu'il faut se méfier de l'enfance. Dans ses dialogues, Platon, pour faire vite, pour faire un survol un petit peu rapide, dans ses dialogues, les lois, par exemple, le dialogue de Platon qui s'appelle Les lois ou La République, un, ça c'est aussi très important sur le plan de la création, Platon dit, ou disons banni de sa cité idéale, de l'idée d'une cité idéale à laquelle il peut rêver en tant que philosophe et en tant que philosophe idéaliste, il bannit le poète. Pas de poète. Platon souligne la faiblesse de ceux qui sont sensibles aux scènes homériques, c'est-à-dire sensibles à Homère. Donc on bannit le poète. Parce que le poète est du côté de l'affect, parce que le poète est du côté du sensible, et qu'il s'agit, pour atteindre le vrai, il s'agit de se dégager au contraire du sensible et de ne pas faire appel à toute cette puissance sombre et dangereuse du sensible. Mais bon, alors vous allez me dire, l'enfant, on ne peut pas le bannir de la cité idéale, parce que des enfants, il en faut, et il faudra toujours qu'il en naisse. Mais l'enfant, il faut s'en méfier. Alors, si le poète, il fallait déjà s'en méfier pour différentes raisons, et l'artiste en général, parce que l'artiste est un imitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui produit surtout des copies et non pas des, et qui s'éloigne du modèle, qui est quelqu'un qui est un imitateur et un auteur de simulacre, dit Platon. L'enfant, il est dangereux parce que, et il est redoutable, parce que l'enfant est avant tout pure énergie. C'est-à-dire que l'enfance est une espèce de boule énergétique. On peut parler, dans la vision que Platon a de l'enfance, d'un enfant énergumène. L'enfant, il est boule d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, puisqu'il est totalement dans l'affect, la sensibilité, le cri, une espèce de sauvagerie, une espèce de pulsion jaillissante, un flux, une force. Et ce qu'il y a d'intéressant chez Platon, c'est que, à propos de l'enfant, donc comme je l'ai dit, on ne peut pas le bannir comme le poète d'une cité rêvée, idéale, peut-être un peu totalitaire sur les bords, on ne peut pas le bannir, mais il faut le tenir. Comment ? Et Platon a deux types de métaphores pour parler de ça. Il a une métaphore, je dirais presque de plombier, à savoir qu'il nous dit que l'énergie de l'enfant, il faut la canaliser. Il faut la capter, l'orienter, la canaliser. Orienter, c'est turbulence. Donc l'idée de... C'est une image de torrent presque, mais qu'il faut capter, etc., éviter des inondations, des coulées de boue, tout ce que vous pouvez imaginer. L'enfant, c'est ça. Et la deuxième métaphore, c'est une métaphore, on pourrait dire, cavalière, enfin, à savoir ce qu'on fait pour les chevaux. Il faut dompter l'enfance, il faut brider l'enfance, il faut dresser l'enfance. Et tout cela est, on le sait, le résultat d'une conception particulièrement abstraite et idéaliste, qui fait que toutes ces caractéristiques, on pourrait presque dire ces fantasmes platoniciens concernant l'enfance, vont être, à l'inverse, pour la modernité, tout ce qui en fera la force ou la puissance créatrice. Bon, si on voulait être tout à fait juste, il faudrait dire que cet aspect-là de Platon, cette présentation-là de Platon est insuffisante, puisque Platon est par ailleurs un très grand écrivain, très grand créateur, et que son œuvre est chargée d'éléments qui sont à la fois poétiques et obscurs, voire clair-obscurs, ne serait-ce que la présence de tout ce qu'on a appelé les mythes platoniciens, qui sont des blocs poétiques réels. Mais dans sa cité idéale, Platon est plutôt celui qui présente l'enfance comme dangereuse. Bien, même chose, bon, je ne vais pas faire un parcours complet de la philosophie, puisqu'il faudrait, cela m'obligerait à dire que ne parlons pas, je dis quand même en deux mots, ne parlons pas de Descartes, qui ne rêve que d'une chose pour atteindre le vrai ou produire le vrai, qui ne rêve qu'une chose, c'est se défaire de sa propre enfance. Nous avons été enfants avant que d'être hommes, mais l'obsession de Descartes, c'est de rompre avec cette enfance, source d'opinion et de fausseté. Et l'idée de Descartes, c'est de se, on pourrait presque dire, niant sa propre enfance, de se faire naître tout seul, mais de se faire naître tout seul droit et rationnel, à savoir ce que Descartes appelle faire table rase, la notion de doute méthodique, c'est-à-dire j'oublie tout ce que j'ai senti, c'est-à-dire je mets tout en doute, et c'est à partir de ce doute que je vais me constituer tout seul, on pourrait dire, niant qu'il y a eu, que j'ai eu, une enfance, une histoire, une genèse. Et au fond, le grand fantasme cartésien, pour faire vraiment simple ici, ce serait cette idée, je me fais naître tout seul par le doute méthodique, et rien de ce par quoi j'ai été constitué, ou je nie même que j'ai été constitué par quelque chose, je surgis tout fait par moi-même, je m'auto-produis dans une espèce de négation, voire de peur, de phobie presque, de l'enfantin, de l'enfance. Ça résonne très très bien avec des aspects, par exemple, de Jean-Paul Sartre, lorsque dans les mots, on s'aperçoit que Sartre a un compte à régler avec son enfance très profond. Là aussi, il y a une espèce de fantasme, sinon cartésien, en tout cas de rationaliste, l'idée de... Il y a une phrase des mots, texte magnifique par ailleurs, enfin de Sartre sur son enfance, le lecteur a compris que je déteste mon enfance et tout ce qui en survit. C'est clair et net. Je déteste mon enfance et tout ce qui en survit. Donc, la philosophie a souvent été ce qui évacue la question de l'enfance. L'enfance n'apparaît dans la réflexion philosophique ou à travers évidemment quelqu'un qui sera déjà entre philosophie et littérature, pensée, réflexion et sensibilité, c'est-à-dire chez Rousseau. Et on peut faire de Jean-Jacques Rousseau, on peut vraiment faire une sorte de grand repère, de grand référent dans ce renversement de la considération de l'enfance. Et sans y insister non plus énormément, il faut dire que, bien entendu, souvent, on parle de... Il y a chez Rousseau deux enfants. Il y a l'enfant de son livre « L'Émile », qui est plutôt un enfant abstrait, je dirais presque théorique, même s'il y a dans l'Émile des idées extrêmement importantes, à savoir, et ça va nous servir aussi, à savoir que l'enfant est une complétude. Ce n'est pas du moindre être, ce n'est pas de la sauvagerie, ce n'est pas... L'enfant est un être complet. Rousseau dit « L'enfant contient pleinement en lui-même la nature de l'homme et potentiellement la liberté humaine. » Il y a quelque chose dans cette vision-là qui vient de l'Émile, quelque chose de très très important dans... Et Rousseau, là, c'est vraiment le renversement. Et évidemment, le second enfant rousseauiste, c'est l'enfant de ce très grand livre que sont les Confessions. Cette fois-ci, c'est non plus le Émile de Émile ou de l'éducation, mais c'est le Jean-Jacques des Confessions. Et cette fois-ci, on assiste dans les passages les plus forts des Confessions consacrées à l'enfance, je ne vais pas le développer à l'instant, mais à un commencement d'écriture de l'enfantin, c'est-à-dire où Rousseau va mettre le doigt, et je dis le doigt et la plume, et l'écriture est trouvée à la fois une écriture et un style, sur des moments que personne, à part lui à ce moment-là, homme isolé, issu du tiers-état, dans cette, peut-être aussi paranoïa qu'il peut avoir dans son sentiment de solitude et de singularité, il va mettre le doigt sur des moments auxquels personne n'aurait accordé une importance quelconque. Des moments qui vont requérir, cette fois-ci, non plus une écriture de type théorique ou philosophique, mais véritablement une écriture sensible, de la littérature. L'enfant rentre dans l'écriture littéraire avec les Confessions. Alors, pour terminer très rapidement, pour passer maintenant, et d'ailleurs, ça va nous faire une transition avec la démarche véritablement créatrice, si j'ai cité Rousseau comme grand moment du basculement, à mes yeux, celui qui met le plus l'accent sur le lien entre enfance et création, c'est Nietzsche. Et je me plais à citer toujours ce passage du livre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, qui est aussi très connu, mais qui est, disons, métaphoriquement très important. C'est le passage qui s'appelle, le fragment qui s'appelle « Les trois métamorphoses ». Et ici, de façon tout à fait délibérée, profonde, consciente, et, disons, à travers... certes des images, puisque Nietzsche est un grand producteur de métaphores, Nietzsche, dans ce passage, d'Ainsi parlait Zarathoustra, Les trois métamorphoses, nous fait sentir comment, un, et cela retentit avec Picasso, ce que je disais au début, comment l'enfant est une conquête, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne se situe pas au commencement, mais c'est quelque chose qu'il s'agit de faire ressurgir, quelque chose qu'il s'agit d'atteindre. Un, l'enfance est une conquête, et deux, l'enfantin est quelque chose qui est à la source, à l'origine de toute créativité, et de toute créativité au sens extrêmement fort où Nietzsche l'emploie, à savoir une vraie rupture. Ici, on est dans un sens de créativité moderne, c'est-à-dire quelque chose qui va dans le sens d'une rupture systématique par rapport à ce qui peut être la convention, la tradition, etc. Dans ce passage, Nietzsche nous dit, je le résume rapidement, il nous dit, il importe pour que l'esprit soit accordé au monde et à un monde qu'il doit transformer, il importe que l'esprit passe par trois états. Premièrement, l'esprit doit se faire chameau. Deuxièmement, l'esprit doit se faire lion. Et troisièmement, l'esprit doit se faire enfant. L'enfant est le troisième état. L'esprit doit se faire chameau. Si j'écoute ce que dit Nietzsche dans une perspective, disons, de création et d'art, le chameau, c'est tout simplement celui, c'est l'animal qui porte. C'est l'animal qui prend sur son dos le maximum de choses, qui est sobre, qui avance et qui, chargé de ses lourds fardeaux, ne proteste pas, ne résigne pas, apprend. Pour Nietzsche, c'est le chameau, c'est le disciple, c'est celui qui apprend. C'est un moment de la jeunesse, c'est le moment nécessaire où je dois me charger d'un certain nombre de choses sans les remettre en cause, on me les pose sur le dos et je les prends. C'est le disciple, c'est celui qui se charge momentanément des valeurs, pensant que c'est cela qu'il doit transporter. Mais nous dit Nietzsche, le chameau s'enfonce dans le désert et à un moment donné, le chameau doit se faire lion. Il doit se métamorphoser, il doit se transformer en lion. Et là, cette mutation, cette espèce de métamorphose, c'est le moment où le chameau se... Comment il fait pour devenir lion ? On est dans le surréalisme, hein. Comment on fait le chameau pour se transformer en lion ? Mais il secoue tout ce qu'il a sur lui, oui. Et il renverse tout ce qu'il portait, et il essaye d'écouter sa propre force, force de lion. Il a renversé tout ce à quoi il croyait, et d'une certaine façon, pour le dire vite ici, parce qu'en fait on pourrait s'absentir sur ces images très fortes, c'est le moment, c'est le non plus le disciple cette fois-ci, mais c'est le passage à l'état de maître. C'est-à-dire où je me... Au fond, c'est quoi être un maître dans la création ? C'est le moment où, après avoir tâtonné, on voit ça dans n'importe quelle biographie de peintre ou d'artiste, il y a un moment où je tâtonne, il y a un moment où j'étais chameau, où j'ai subi des influences, j'ai essayé de vivre de ces influences, mais à un moment donné, je dépasse ces influences et j'accède à mon propre style. Donc c'est le passage du disciple au maître, c'est-à-dire celui qui, cette fois-ci, accède à un style reconnaissable. On va dire, c'est du Miro, on va dire, c'est du Paul Klee, on va dire, c'est du Bacon. Et ici, le lion, c'est le maître qui a accédé donc à, et produit son propre style. On pourrait en rester là. On pourrait dire, mais après tout, voilà l'artiste. Il est devenu Paul Klee, il est devenu Bacon. Voilà. Il est devenu Picasso, il est devenu tout ce qu'on veut. Je parlerai tout à l'heure de Jean-Michel Basquiat, comme artiste extrêmement chargé de ce que j'ai appelé l'enfantin, là, mais en même temps très maître de ce qu'il fait, on pourrait en rester là. Or, Nietzsche nous dit, mais l'esprit doit encore se faire enfant. Et il nous dit, se faire enfant, c'est-à-dire créateur, c'est-à-dire innocence et oubli, c'est-à-dire accéder à une légèreté et à une amoralité qui est la source de toute véritable création. C'est-à-dire que par-delà le moment où l'artiste a accédé à ce qui pourrait être sa maîtrise, sa production d'un style, lui-même, sa signature, ses couleurs. Il y a peut-être encore, que peut-être peu d'artistes d'ailleurs atteignent, Nietzsche nous dessine, nous esquisse une possibilité qui est devenir enfant. Devenir enfant, c'est-à-dire se trouver par-delà ce moment où j'ai eu ce style, c'est-à-dire dans une sorte de liberté extraordinaire où, au fond, je n'ai plus à prouver quelque chose, je n'ai plus à... Parce que certains artistes, à partir d'un certain moment, peuvent peut-être aussi, on peut penser à des artistes qui n'ont fait que se parodier soi-même, ou approfondir quelque chose qui a été mis en place. Non, je peux accéder à quelque chose qui sera, dit Nietzsche, pure affirmation et pur je, comme si le grand art, enfin selon Nietzsche, c'était ce moment où au fond l'artiste peut faire, je dirais même pas ce qu'il veut, mais il peut faire, se laisser aller à faire ce qui vient, ce qui lui vient. Et donc des choses tout à fait étonnantes et surprenantes surviennent, peut-être quelquefois d'ailleurs, et ça c'est très intéressant à étudier aussi, dans le grand âge. Et donc y aurait ici cette nécessité du devenir enfant, selon Nietzsche. Alors, pour venir maintenant à d'autres aspects de la création, de la même façon que nous avons mis des siècles à ce que la pensée, à ce que la culture, à ce que nos habitudes, à ce que notre réflexion accueille, comme je le disais au début, ce que j'appelais l'enfantin, l'art a mis des siècles à se libérer, à se défaire, le passage à l'art moderne, et c'est cela, à se défaire d'un certain nombre de conventions, un certain nombre de, on pourrait presque dire, d'obligations, et pour parvenir à une sorte de libération d'énergie, on a parlé de l'enfant énergumène, de non-dépendance d'un certain nombre de codes, de techniques, que ce soit la figuration, la représentation, ou même la fonction de célébration de l'art, pour arriver à laisser affleurer, puis se réaliser quelque chose qui était de cette sorte de sauvagerie que j'évoquais au début. Alors, pour comprendre cette genèse, je voudrais faire cette fois-ci une sorte d'examen de la façon dont l'enfant dessine et faire cette fois-ci, pour en venir à l'artiste créateur, un détour par le dessin d'enfant. Alors, j'ai été très très intéressé à un moment donné par l'étude, l'examen, l'analyse, si on peut dire, ou peut-être tout simplement, je dirais aussi quelquefois, l'admiration du dessin d'enfant. Alors, commençons par une chose très simple. Tous les enfants dessinent, ou presque. Il y a quelque chose d'une évidence dans l'acte de dessiner chez un enfant. Il ne se pose pas la question, est-ce que je sais, est-ce que je ne sais pas. Les enfants dessinent. C'est une prolongation de leur schéma corporel, c'est une prolongation de leur activité, simplement qui se rassemble dans quelque chose qui va être un espace que nous allons étudier tout à l'heure. Donc, tous les enfants dessinent, et pourtant, chacun de nous, tous ici, nous avons sans doute enfants dessinés, peut-être encore quelquefois des vieux dessins d'enfants que nous retrouvons, et tous nous passons par un moment, ou beaucoup, ou un très 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 grand nombre, passent par un moment, on pourrait dire, d'hésitation, de perplexité, puis, disons-le, de blocage. Il y a un moment donné où l'enfant ne dessine plus. Et j'ai été très intéressé à un moment donné d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand l'enfant dit « je ne veux plus dessiner ». Soit il dit « non, je ne veux pas, je ne sais pas faire ». Bon, il peut dire « j'ai pas envie ». Mais quand on creuse un peu, il va faire allusion à une maladresse. Il va nous dire « non, mais je ne fais pas, c'est par ressemblance que je fais ». Et pour la première fois, il est soucieux de ça, il est soucieux quelque chose qui relève du réalisme, ce qui l'a jamais gêné avant. Ou il va dire « j'ai pas d'idée ». Ou il va dire des choses tout à fait secondaires. Il va dire « non, non, mais je ne veux pas parce que moi je déborde tout le temps, je ne veux pas déborder ». Ou il va trouver ridicule ce qu'il fait. Et du coup, cette peur du ridicule, où il va dire « moi je dessine plus parce que je ne suis plus un bébé, je suis trop grand ». Et donc ce moment de blocage est très intéressant parce qu'il nous concerne tous, puisque à un moment donné, beaucoup d'entre nous ne savent qu'ils ne dessineront plus de leur vie, alors qu'ils ont tous dessiné. Alors, on peut dire c'est la conséquence d'un certain type de socialisation, c'est la conséquence d'un certain type d'intériorisation de code. On peut dire c'est parce que l'énergie, on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne là, au niveau du dessin, l'énergie qui se mettait dans le dessin et dans ce dessin qui était indifférent au réalisme et aux formes, et qui était dans cette, ce que j'appelle la pulsion figurante, se place ailleurs, se situe ailleurs, que l'énergie et les pulsions vont passer par ailleurs. Mais j'aurais tendance à dire que cet arrêt, ce moment du blocage de cette démarche du dessin et de cette création enfantine, c'est le refoulement de ce que j'appellerais une jouissance figurante, une érotique graphique. L'enfant ne s'autorise plus ça. Il refoule ce type de plaisir. Il y a l'idée du refoulement d'un plaisir, parce que c'est indissociable, c'est-à-dire que dessiner, c'est une jouissance. Dessiner, c'est un plaisir. Et à un moment donné, ça, je me l'interdis. Cette jouissance de laisser des traces, cette jouissance de voir la trace se faire, cette jouissance aussi de mettre des noms, d'ailleurs, sur les choses qu'on trace et qu'on décide, parfois de façon aléatoire, c'est l'occasion d'une jubilation. C'est cette jubilation, c'est ce plaisir-là que soudain je m'interdis. Or, pourquoi ? Peut-être c'est quelque chose de cet ordre. Je dis que tout à l'heure, si je parviens à ce stade-là, j'évoquerai rapidement Jean-Michel Basquiat et ce qu'a été dans ce dernier moment de l'art moderne, c'est-à-dire ces graphes qu'il faisait dans New York et qui ensuite sont devenus des tableaux, mais qui gardaient cette pulsion ou cette érotique graphique. À un moment donné, ceci est arrêté. Or, disais-je, quand l'enfant dessine, qu'est-ce qui se passe ? Dessiner pour l'enfant, c'est effectivement expérimenter que l'énergie, alors on retrouve cet enfant torrentiel, hein, cet enfant énergétique qu'on évoquait déjà avec Platon tout à l'heure, cette énergie, mais qui cette fois-ci est une valeur positive, il découvre confusément, comme un enfant, il découvre que cette énergie, elle peut donner lieu à quelque chose, elle peut faire surgir quelque chose. Il découvre lui-même d'ailleurs ici une sorte d'auto-canalisation de sa propre énergie, parce que pour dessiner, on ne dessine pas sans un minimum de appelons ça discipline si on veut, mais enfin de canalisation. C'est autre chose que ce que je fais en tant qu'enfant, quand je cours, quand je saute, quand je crie, c'est-à-dire que la création, là, ce n'est pas la récréation. La création, c'est quelque chose se donne dans cette espèce de bulle où je me suis installé, quelque chose se donne et va surgir. Il découvre donc ce que peut son corps. Il découvre comment l'énergie peut se condenser dans quelque chose qui est, au fond, l'énergie étant un vaste réservoir confus, quelque chose va se condenser dans quelque chose d'extrêmement fin, une mine de crayon, une pointe, un feutre, des poils d'un pinceau, et ce passage-là, sur une surface réduite, c'est-à-dire sur un rectangle qui est la feuille, même s'il déborde, même tout ce qu'on veut, cette découverte-là est une découverte extrêmement importante. Il découvre que sa main est connectée à sa tête. Il fait cette expérience de façon, bien entendu, non réfléchie, mais il l'a fait. Et là est une des sources du plaisir. Donc, presque tous les enfants éprouvent ce plaisir-là, cette sorte d'aventure corporelle qui consiste à utiliser un matériau, la forme et la couleur, et quelque chose surgit qui est aussi une surprise. J'étais très intéressé, j'ai toujours observé beaucoup les enfants, mais je regardais ma petite fille dessiner l'autre jour, et toujours c'est une occasion d'observer quelque chose, même si c'est aussi une admiration. Elle me disait, je vais faire un loup. Alors évidemment, en disant le mot loup, elle le dit d'une certaine façon pour qu'il y ait... Et ce qu'elle dessinait, c'était une sorte de trait brisé. Et ce trait brisé, c'était les dents. C'est-à-dire qu'elle dessine un loup en commençant par des dents. Elle me dit, voilà le loup, voilà le loup. Et elle dessine ce trait brisé, qui sont des dents, comme ça, en dents de scie, si vous voulez. Autour du trait brisé en dents de scie, elle faisait un cercle, c'est la tête du loup, et puis elle faisait vaguement des oreilles, et puis, contre cette tête, au bas de cette tête, elle faisait quatre espèces de pieds sommaires, et elle disait, c'est un loup. En fait, ça ne ressemblait pas du tout à un loup, mais l'essentiel étant dans ce surgissement qui passait par ce trait brisé qui était les dents. C'est-à-dire que, au fond, le plaisir, et puis elle prenait un plaisir mimétique aussi, c'est-à-dire que dessiner le loup, c'était faire le loup, et c'était le faire en gros, surgir ce loup dans ses traits brisés. Alors, vient un moment où, alors que il y a eu toutes sortes d'expériences jubilatoires de ce type, où je dis je ne sais pas dessiner. À la jubilation se substitue un interdit. Alors, une question se pose. Est-ce que le devenir artiste, est-ce qu'au fond, lorsque quelqu'un va accéder à cette... appelons ça état ou statut, pour que ce soit un statut, il faut qu'il soit reconnu aussi par les autres, ce statut d'artiste, est-ce que cela signifierait que cette pulsion figurante, que cette jouissance dans cette utilisation de l'énergie est persistée? Est-ce que finalement l'artiste, c'est quelqu'un chez qui il n'y a pas eu cet arrêt, cette interruption, ce « je ne sais pas dessiner » Ou est-ce qu'il s'agit au contraire d'un ressurgissement plus tardif? Ou est-ce qu'au contraire, il s'agit encore de tout à fait autre chose? Alors, comme je le disais, l'art moderne est sans doute le moment où cette érotique figurante, cette pulsion graphique ont été réactivées. Et au fond, être un artiste au sens moderne, l'art moderne finalement a produit un type d'artiste qui était en rupture complète avec ce qu'a pu être l'artiste classique ou traditionnel. Un artiste traditionnel ou classique est quelqu'un pour qui il s'agissait avant tout de s'intégrer à une activité socialement reconnue, etc., c'est-à-dire aussi accéder à une compétence. Il s'agissait d'acquérir des techniques. Il s'agissait aussi de participer à un ordre symbolique, c'est-à-dire qui était fondé sur la commande, l'exécution, et qui servait en grande partie à représenter, mais aussi à célébrer. Or, d'un seul coup, la moderne, enfin d'un seul coup, pas d'un seul coup, non, mais avec de toute façon cette notion de rupture, la modernité, ça va être exactement l'inverse de tout cela. C'est-à-dire, c'est retrouver par-delà tous ces refoulements qu'une socialisation peut exiger, c'est retrouver cette sorte de sauvagerie. J'aime bien la formule de André Breton qui dit dans le surréalisme et la peinture, l'œil existe à l'état sauvage, souvent cité également. Cette idée d'un œil à l'état sauvage, c'est-à-dire d'une sauvagerie du regard, c'est là la conquête. C'est la conquête qui fait la modernité, mais cette sauvagerie du regard, elle est aussi cette sauvagerie des premiers regards. C'est-à-dire que l'enfantin en nous, c'est une somme de première fois. Et la question est, comment regarde-t-on, enfin, non pas regarde-t-on, mais comment voit-on les choses quand on les voit au cours des premières fois ? Comment voit-on un objet ? Comment voit-on un être ? Ça peut être n'importe quoi, une armoire, un camion, un visage, un objet dont on n'a jamais entendu parler, dont on entend le nom en même temps qu'on voit la forme. C'est quoi voir pour une première fois ? C'est quoi un œil à l'état sauvage ? Or, précisément, il y a dans la modernité, il y a quelque chose de cette sauvagerie, mais qui n'est sauvage que parce que ce n'est pas référé ni à une habitude ni à une répétition, c'est la puissance des premières fois. L'enfantin en nous, c'est au fond peut-être ce reste de première fois. Et c'est très important une première fois, je le dis très vite ici évidemment, mais c'est très important une première fois. C'est-à-dire que au fond, il y avait une sorte de... J'ose même pas dire le mot fraîcheur, mais une sorte de spontanéité, d'ouverture dans le regard sur les choses, qui est ensuite peut-être la chose que nous avons le plus perdue. Nous n'avons plus de première fois. Être vieux, c'est avoir de moins en moins de première fois. Oui, je cite souvent, aussi qui me revient à l'instant, cette très très belle phrase de Bergson, qui dit à propos de l'enfance, j'aime bien la citer aussi, il dit « l'enfance est un bouquet de possibles ». Très belle formule, un bouquet de possibles. Or, précisément, l'éloignement de l'enfance ou la perte de l'enfance, c'est précisément ça, c'est-à-dire c'est la réduction des possibles. C'est le fait que de moins en moins de choses sont possibles au sens où, au fond, l'enfance est une ouverture, une quantité de possibles qui se referme petit à petit. Et au fond, il y a dans la création, dans ce que j'appelais la modernité créatrice, il y a une façon de faire retour à ces possibles. C'est-à-dire, au fond, formellement, plastiquement, tout est possible. Et il y a une sorte de disposition de type enfantine dans un sens qui est absolument pas, qui est aux antipodes de toute dévalorisation, évidemment, sans doute, une façon de dire une ouverture au possible, une ouverture enfantine au possible qui est au cœur même de la modernité créatrice. Alors... Pour avancer un peu, je voudrais dire que creuser un peu, disons aussi, cette question du dessin d'enfant, de comment l'enfant dessine et comment peut-être quelque chose se retrouve ensuite dans ce que j'appelle la modernité créatrice. Moi, j'ai souvent été assez un peu choqué par ce qu'on pourrait appeler le rapport de... Je disais, j'étais intéressé par la compréhension du dessin d'enfant. Et souvent, j'ai trouvé que la psychologie, voire la psychanalyse face au dessin d'enfant, nous faisait
perdre énormément de ce que le dessin d'enfant contient. Alors, souvent, psychologie et psychanalyse se sont penchés sur la façon dont les enfants dessinent ou sur les dessins d'enfants de façon terriblement réductrice. Or, il faudrait peut-être inventer, pour regarder le dessin d'enfant, il faudrait peut-être inventer là aussi un autre œil, un œil qui serait capable de traquer quelque chose de l'ordre d'une esthétique différente. Alors, souvent, la psychologie ne se sert du dessin d'enfance, vous le savez, qu'un peu comme des tests projectifs. C'est-à-dire, on dit, je regarde les dessins d'enfants afin de savoir, en gros, quelles sont les obsessions de cet enfant, qu'est-ce qu'il projette de lui-même, qu'est-ce qu'il projette de lui-même dans son dessin, quels sont ses problèmes, quelles sont ses obsessions, ou alors inversement, où en est-il dans son rapport au réel, dans son schéma corporel, et on va retrouver dans la façon dont l'enfant dessine, on va retrouver des stades de développement, au point que quelquefois, chez certains psychologues de l'enfance, on va être capable de vous dire que tel dessin, l'enfant est un peu en retard, là, vu la façon dont il dessine. Ce qui est, à mes yeux, tout à fait condamnable, hein, parce qu'il n'y a pas de retard ou d'avancée. Alors certes, effectivement, on a par moments cette impression que le dessin d'enfant relativement monotone, que à tel moment, en principe, normalement, tel type d'enfant projette un schéma corporel de tel type. Il va faire un rond pour la tête, un triangle pour le corps, deux petites barres. Il va faire partir les bras du bas de la tête, etc. Et on va dire, bon voilà, il s'en tient à tel et tel stade. Et on ne s'intéresse, en examinant le dessin d'enfant, on ne s'intéresse, qu'au stade où il se trouve, on s'intéresse aux résultats et on ne s'intéresse pas à qu'est-ce qui se passe quand il dessine, qu'est-ce qui se réalise quand il dessine. Bon, il y a, et je rends ici hommage à des grands psychanalystes, un peu nombreux d'ailleurs, qui se sont penchés de façon beaucoup plus ouverte sur le dessin d'enfant. Et j'en cite deux qui sont Daniel Wiedlöcher et Winnicott, Donald Winnicott, qui ont... Alors Winnicott a abordé le dessin d'enfant à la fois en psychanalyste, mais avec une espèce de sens aussi artistique extrêmement intéressant. Il avait une collection considérable de dessins d'enfants. Et il se sert d'une notion l'a développée par ailleurs. C'est Winnicott, vous savez, qui est à l'origine de ce concept qu'on appelle l'objet transitionnel. Et l'objet transitionnel, c'est-à-dire, pour faire simple, pour l'enfant, c'est, par exemple le doudou. Hein, le doudou, c'est ni la mère ni pas la mère. C'est-à-dire que quand j'ai le doudou, je suis à la fois pas sans mère et je ne suis pas non plus avec mère. Et donc l'objet transitionnel est quelque chose qui a une fonction extrêmement importante. Et à propos du dessin sur lequel que l'enfant va produire, Winnicott emploie le lieu, l'enfant dessine dans un espace traditionnel, transitionnel, pardon, un espace transitionnel. Et il fait de cette, appelons ça feuille de papier, surface qui a été désignée pour faire le dessin, ou choisie pour faire le dessin, il en fait un espace traditionnel, transitionnel. C'est-à-dire quelque chose qui sera ni exactement l'intériorité de l'enfant, ni exactement encore l'extériorité, mais une sorte d'entre-deux. Et c'est très important, ça, cette idée que dessiner, c'est s'installer dans cette espèce d'entre-deux, qui sera à la fois entre une sorte de narcissisme, voire presque une sorte d'autisme dans lequel je m'enferme pour dessiner, et en même temps déjà un lien social, objectal, C'est important que les enfants, par exemple, ils font toujours des dessins en disant « je te fais un dessin pour toi ». Il fait un dessin pour quelqu'un. Mais en même temps, il le fait tout seul. Cet espace transitionnel, c'est un espace qui est ni exactement l'étrangeté, c'est à la fois, disons plutôt, l'étrangeté qui va surgir, parce qu'il y a aussi ça, dans la jouissance du dessin, il y a aussi cette surprise de ce qui va surgir. Au début de cette intervention, je parlais de ce visage sur la vitre que nous avons dessiné tout à l'heure, et puis qui soudain se met à pleurer des larmes. C'est une surprise, c'est un événement minuscule, mais c'est un événement. Et étrange, parfois. Donc, entre l'étrangeté de ce qu'il est en train de faire, de ce qui surgit pour lui, et puis le familier, voire le familial, on se tient entre les deux. On se tient entre, dans cet espace sur lequel j'essaye de faire quelque chose, entre cette énergie dont on parlait tout à l'heure, l'énergie pulsionnelle qui est là au départ, puisque, au fond, à l'arrière-plan de toute forme, il y a des forces. Peut-être qu'au fond, il s'agit du devenir de la force en forme. Entre l'énergie pulsionnelle qui est en cause ici, et puis ce formidable adoucissement des choses par ce qui va devenir désignable, ce qui va devenir une forme, ce qui va ressembler à quelque chose. Donc cet espace transitionnel, selon Winnicott, qu'est le dessin d'enfant, dont on doit tenir compte, comme dans n'importe quelle œuvre d'art, du support, justement, ça va être cette feuille de papier, ça va être ce tableau, n'importe quoi, mais en tout cas, cet espace transitionnel, hanté de toutes sortes de choses qui vont y surgir, mais qui est un entre-deux, est aussi, par excellence, quelque chose qui nous aide à comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire l'événement qu'est la création, la modernité créatrice, la démarche créatrice moderne. Alors, je disais d'entrée de jeu, je le répète maintenant, et puis, ceci dit, même si j'invitais, en regardant des dessins d'enfants, en accueillant des dessins d'enfants, même si j'invitais à voir ce que, je parlais de Winnicott, mais aussi Daniel Wiedlöcher, en tant que psychanalyste, ce qu'ils ont été capables, eux, d'accueillir, à savoir, ils ont été capables de repérer dans des dessins d'enfants, ils ont été capables de voir que tout n'était pas réductible à des schémas standards. C'est-à-dire, l'enfant est à tel moment de son développement corporel ou pulsionnel, etc., etc., mais ils ont essayé de montrer qu'au fond, dans chaque dessin d'enfant, il y a à repérer de la singularité, il y a à repérer des effets singuliers ou incongrus, il y a à repérer des failles, il y a à repérer des monstruosités, il y a à repérer des choses qui ne ressemblent pas chez tel enfant à tel autre, et être capable de repérer ça, c'est très important, voire même de repérer aussi, d'être sensible, c'est ce que je disais au début, à une certaine beauté présente, sauvage, inattendue, mais qui est là et qui nous émeut autant que peut nous émouvoir telle grande œuvre ou telle œuvre d'un artiste confirmé. Alors, ceci dit, je disais précaution, pour autant, même si à partir de la façon dont fonctionne ce dessin d'enfant ou cette enfance dessinante, je pourrais peut-être dire les choses comme ça, il ne faut surtout pas dire l'enfant est un artiste. L'enfant n'est pas un artiste, l'enfant est un enfant. C'est un enfant qui dessine. L'enfant est un enfant qui dessine, un enfant qui peint. De même, l'artiste ne fait pas l'enfant. L'artiste n'est pas quelqu'un, alors surtout pas évidemment, qui retombe en enfance, n'est pas quelqu'un qui fait de façon, je ne sais pas comment, parodique ou autre, l'enfant pour arriver à produire quelque chose de l'ordre de la rupture. Non, l'enfant reste un enfant et l'artiste, pour être artiste, doit en passer lui-même par cette espèce de reconquête qui nous était tout à fait bien signifiée tout à l'heure par les images de Nietzsche et les métaphores de Nietzsche, chameau, lion, enfant. Et il doit en passer par quelque chose que j'appellerais l'artiste, le créateur, qui apporte quelque chose de l'ordre, puisque nous sommes dans la modernité, de l'ordre de la nouveauté, de l'ordre de la rupture, de l'ordre de l'inattendu. Il doit en passer par ce que j'appellerais un désapprentissage. Il y a quelque chose, donc peut-être qu'ici nous pouvons prolonger un petit peu ce que Nietzsche nous disait tout à l'heure à propos du devenir enfant après le devenir lion. L'artiste doit en passer par un désapprentissage. Or, le désapprentissage, c'est un travail. Désapprendre, c'est un boulot. Désapprendre, c'est une ascèse. Désapprendre, c'est un effort. Or, cette ascèse du désapprentissage va être aussi ce qui est cette façon de, d'accueillir, et alors il était avec nous depuis le début, là, c'est ce que j'appelais dès le début, cet enfant qui nous accompagne, cet enfantôme, nous laisser hanter par l'enfantôme, c'est aussi vivre ou organiser, parce que organiser, travailler cette ascèse du désapprentissage. Alors, juste pour avancer maintenant avec deux artistes, cette ascèse du désapprentissage, je dis deux artistes, on peut en faire intervenir un certain nombre d'autres, mais cette ascèse du désapprentissage est quelque chose de très important. Paul Klee, par exemple, y a chez Paul Klee, alors on peut être sensible chez Klee à des images extrêmement fortes qui se donnent à nous avec l'intensité de ce qui pourrait évoquer précisément un dessin d'enfant. Or, dans quelle mesure, dans cette image de Klee, il y a-t-il derrière ce qui se donne avec une telle simplicité, avec une telle puissance, une telle énergie de l'ordre de l'enfantin, dans quelle mesure y a-t-il derrière tout un travail, toute une ascèse, toute une façon de reprendre les choses, tout ce que j'appelle justement cette ascèse du désapprentissage. Et c'est un résultat. C'est-à-dire que j'en viens à cette idée que l'enfantin est toujours de l'ordre du résultat. Pour le dire en quelques formules aussi, sur les notions que je développe dans le livre « Enfance obscure », et ça peut paraître ou un paradoxe ou une provocation, l'enfant n'est pas enfantin. L'enfant est infantile, c'est-à-dire qu'il relève de conduite ou de façon d'être traité, qui sont la façon dont on traite les enfants, d'une conduite de l'ordre de la langue enfantine, de la conduite enfantine, de la place qu'on accorde aux enfants, ceci relève de l'infantile. L'enfant est infantile, il n'est pas enfantin. L'enfantin est donc cette conquête, cette façon d'avoir été à l'écoute de ce qui nous hantait de l'ordre de l'enfance. Et tous les grands artistes relèvent de cet enfantin-là, mais qui est, au fond, ce serait là aussi paradoxal ou un peu provocateur de dire, au fond, seul celui qui n'est plus un enfant peut accueillir, coïncider partiellement avec quelque chose de l'enfantin. Donc, ma notion d'enfantin telle que je la développe longuement et que je ne fais qu'évoquer rapidement ici, est véritablement quelque chose qui est de l'ordre de la création et de l'ordre de la conquête. J'aime bien parler, pour terminer ici, j'aime bien parler donc de cet artiste qui est Jean-Michel Basquiat, artiste new-yorkais, célèbre pour sa fulgurante carrière, c'est-à-dire que mort à 28 ans, après avoir été porté comme représentant de l'hypermodernité, qui était en même temps la fin, quelque chose de la fin de la modernité new-yorkaise, modernité, il meurt en 88, donc nous sommes à la fin des années 80, et il y a chez Basquiat quelque chose, quand on voit ses productions, il est parti de graffiti répandus dans la ville, considérés comme ce qu'on fait comme ça et qui compte pas. Mais dans une sorte de, on retrouve ce terme, de jouissance graphique, où des quantités de visages, des quantités de corps sommaires qui n'exigeaient absolument pas le savoir dessiner. Beaucoup plus tard dans sa vie, il y a Andy Warhol qui lui dit « Il faudrait quand même que tu prennes un petit peu des cours d'anatomie, ça ne te servira pas, mais c'est quand même bien. » Et lui, il s'en fout. Et de toute façon, il produit quelque chose. Il signe de façon tout à fait provocatrice aussi ce qu'il produit de cette façon-là, partout, n'importe où. Tant pis si ça s'efface ensuite, tant pis si c'est recouvert. Il signe « Samo ».« Same old shit ». C'est-à-dire, disons, toujours la même vieille merde. Et il y a quelque chose, bon, on va me dire, de fécal, on retrouve peut-être un autre aspect de l'enfantin. Un critique va l'appeler le radiant child, l'enfant irradiant, radieux, etc. Donc on est entre toujours la même vieille merde et le radieux, et quelque chose qui a lieu dans ces dessins, dans la présence de ces dessins, qui vont être remarqués comme ça, qui sont faits pour disparaître, qui sont uniquement dans cette espèce de jouissance graphique. Or, Basquiat, quand on voit ensuite, quand il s'installe, quand des galeristes le recherchent, ça essaye de savoir qui il est, et puis lui passe des commandes, et puis l'installe, etc., et le font travailler, et qui commence à faire des œuvres sur des supports qui peuvent être aussi, là aussi, des variables, des bouts de planches, et toujours dans cette même, j'ose pas dire tradition, mais enfin, cette même élan du graphisme, on peut dire là, mais ce qui nous vient, ce que Basquiat nous livre, quand on regarde, on voit ces visages sommairement esquissés, on voit ces petits personnages qui sont faits aussi comme ceux qu'on évoquait tout à l'heure dans le dessin d'enfant avec quelques traits, etc. On voit sur certains de ces tableaux des barres, les unes à côté des autres, comme un enfant qui fait des barres, ou des lettres, la même lettre, comme un enfant qui on peut dire ici, dans cette esthétique de Basquiat, on est très proche du dessin d'enfant dans son origine infantile, c'est-à-dire que au fond, c'est ça. Or, Basquiat est un artiste moderne à part entière, parce que précisément, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que derrière cette espèce de simplicité, spontanéité, facilité apparente, il y a quelque chose qui est aussi l'intégration de quantité de savoir et de savoir-faire qui appartiennent et à l'histoire de l'art, qui appartiennent à un certain moment de l'histoire de l'art. Et on sait que Basquiat, par exemple, a été largement initié à l'art en général, d'ailleurs, par sa mère, qui l'emmenait dans les musées, par des livres qu'il a lus, par une sorte d'attention qu'il a portée très très tôt, parce qu'effectivement, c'est une... Picasso meurt à 92 ans, il meurt à 28. Hein, et d'une certaine façon, il y a, chez ces deux artistes si différents, il y a quelque chose de commun, malgré tout, dans ce rapport à l'enfantin. Et pourtant, Basquiat est un artiste parce que cet enfantin, là aussi, Et sinon, ce que j'appelais tout à l'heure une conquête, en tout cas, quelque chose qui n'est pas coupé de, oui, d'une histoire de l'art, de thématiques, de techniques, de codes. Et quand on se met à regarder l'œuvre de Basquiat à partir de là, c'est-à-dire à partir de ces... On y retrouve des thèmes, par exemple le skull, le crâne, on y trouve le cri, la tête qui crie. Alors, on peut dire de cette tradition du skull dans toute l'histoire de la peinture, du cri qui passe par Munch et d'autres. On y trouve des éléments qui font que, au fond, ce n'est pas quelqu'un qui est resté à faire l'enfant, mais quelqu'un chez qui, à la fin de la modernité, justement, puisque parvient avec une sorte de... Alors là, la grande force ou indifférence, avec une grande indifférence, avec une espèce de vitesse, il parvient à quelque chose qui est pleinement une création, qui est pleinement une création qui s'inscrit à un certain moment de l'histoire de la création contemporaine. Donc, terminer, parce que je pense qu'il faut que peut-être on échange, et ce serait avec plaisir si vous avez un certain nombre de questions. Il me semble que ce que j'ai appelé cet enfantin, qui est une dimension aussi, je le disais dans le petit texte que j'ai lu au début, qui a une dimension presque nerveuse et musculaire en nous. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement voir, percevoir et sentir, mais c'est aussi la disposition au geste. Eh bien, que toute ce que j'ai appelé la modernité créatrice a su accueillir cette dimension-là, trouver soit... pas simplement les formes et les couleurs, mais trouver aussi les démarches, trouver les organisations pour l'accueillir pleinement de la même façon, et ça je ne l'ai pas développé aujourd'hui, mais c'est un aspect important du livre aussi, de la même façon que la littérature a su, je dirais, chercher, sinon trouver les mots. Je pense à des gens qui sont aussi différents que Michel Léris, ou dans ce très beau livre qui s'appelle « L'âge d'homme » où les pages sur l'enfantin sont extrêmement fortes, ou Nathalie Sarraute dans ce livre qui s'appelle « Enfance », trouver et chercher la langue qui est la langue de ce que j'appellerais l'accueil de l'enfantin. Voilà, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je vais arrêter là puisque c'est l'heure. Voilà. Merci. Merci. Ce serait bien si peut-être on peut avoir un échange. Je sais qu'il y a une demi-heure prévue à cet effet. Donc, je pense surtout à tout ce que je ne vous ai pas dit. Donc, n'hésitez pas à me poser quelques questions ou des remarques ou des... Je crois qu'il y a un micro prévu. Pardon. Oui, madame. Il y a un micro là.
Oui, mais...
Je vous entendrai. Hein. Mademoiselle, il y a un micro. Il y a quelqu'un qui voulait le micro ici. Et puis là aussi, d'accord.
Oui.
On commence par madame là, qui avait le doigt en premier, puis on passe là-haut ensuite. Ah bon. Oui, je vous écoute. Alors, c'est qui en premier? Bon, ben, ce sera vous quand même.
Alors, c'est qui ?
Voilà. Mais jamais sans micro. Oui.
Ça fait plaisir d'entendre parler de la modernité et de l'artiste dans ce sens-là. Malheureusement, il y a un retour actuellement à l'art classique, au classicisme, aux techniques classiques. Voilà. Alors, on a ouvert des portes, mais au niveau de l'art contemporain...
Attends, parlez bien dans le micro, parce que là, c'est moi qui vous entends.
Au niveau de l'art contemporain et de ce qui se passe actuellement dans l'art, il y a un retour au classicisme et aux bases et aux techniques ancestrales, etc. Malheureusement. Après avoir ouvert toutes ces portes.
Oui. Voilà. Si vous voulez, moi j'ai essayé, là, quand je parlais d'art moderne, je restais à une conception de la modernité, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même très repérable dans le temps et dont on peut trouver un moment où cette modernité s'interrompt en quelque sorte pour céder la place à ce qu'on a pu appeler le postmoderne, ce qu'on a pu appeler de différentes, pour désigner une autre période de l'art où il ne s'agit plus d'une sorte de constante surenchère dans l'inventivité ou dans le nouveau. Hein, c'est plus la modernité, comme disait je ne sais plus quel critique, c'est la période des manifestes, c'est la période des invitations à des renversements, etc. Et c'est pour ça que quand je parlais de Basquiat, je me situais dans une sorte de fin du moderne, où on passe ensuite à autre chose, qui est quoi ? Qui est le passage d'une sorte de plan d'équivalence pour la création et la créativité, à savoir, je ne dirais pas, tout se vaut ou presque, alors que la modernité consistait à dire ceci dépasse ce qui a été fait avant. Ceci, et il s'agit de toujours dépasser et d'aller bon, plus loin ou plus fort. Ou tout, bon. Donc on est passé à une autre période. Et c'est pour ça qu'il me semblait que c'était dans la démarche spécifiquement moderne, ce qui ne veut pas dire que c'est exclu de ce qu'on appellera l'art contemporain, si on veut, ou de ce qu'on appellera l'art postmoderne, ça ne veut pas dire que c'en est exclu. Mais c'est là qu'il me semblait que l'accueil de ce que j'ai appelé enfantin était le plus fort. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais... Donc il y avait une autre question là-haut. J'ai plus... Oui.
Oui, monsieur. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous avez évoqué le renversement considérable qu'a apporté Jean-Jacques Rousseau sur le point de vue accordé à l'enfant. Et vous avez indiqué que dans les confessions, Jean-Jacques Rousseau accorde une importance à des moments jusque-là ignorés ou sous-estimés dans la littérature ou dans la philosophie. Est-ce que vous pouvez illustrer cela ? S'il vous plaît.
Oui, bah, écoutez, dans les confessions, vous avez tous les moments où Rousseau va être attentif à un fait totalement mineur de son enfance, qu'il s'agisse d'un moment où il se trouve seul et où il va, où il est errant et il va se réveiller un matin près d'une cascade dont il entend le bruit. Il va être sensible il va nous évoquer le moment où d'un vol d'ailleurs. Il va être évoqué toutes sortes d'éléments, on pourrait dire, totalement mineurs, apparemment sans importance aux yeux de qui s'intéresse à une biographie qui est une biographie constitutive et constructive. Et sans... Alors, il faudra attendre, je ne sais pas, 130 ans pour que la psychanalyse ensuite disent bon, bah, tel détail sensible de l'enfance a pu avoir tel effet. C'est pas exactement cette perspective-là que se place Rousseau, mais en tout cas, dans les confessions, vous avez des quantités de minuscules notations qui cherchent leur langue, qui cherchent leur langage. Et seul un langage littéraire peut les rendre. Et on est dans une autre perspective qu'était la perspective de l'Émile.
Oui. Oui, bonsoir. Je voulais déjà vous remercier parce que j'ai été très touchée par tout l'exposé. Il y a des moments, en fait, des fois, je décroche parce que, enfin, des fois, c'est trop compliqué de retenir toutes les informations. Et là, j'ai pas eu ce sentiment-là. Et enfin, je trouve que vous faites beaucoup appel à l'émotionnel, en fait. Et la première question que j'avais, c'était justement, est-ce qu'on peut rapprocher ce que vous décrivez par rapport à l'enfance et la création, un peu une mémoire implicite, inconsciente, qui est en lien avec l'émotion et qu'on oppose souvent à la raison, comme si la raison, c'était le vrai, le réel. Et est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de canaliser, en fait, cet émotionnel? Enfin, je ne sais pas, je pensais par exemple à la sublimation dont parle Freud, pour essayer de garder cette force émotionnelle, mais qu'elle soit socialisée. Enfin, je ne sais pas comment dire avec des... Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire.
Oui, est-ce que vous pouvez préciser le rapport que vous établissez entre cette force qui se socialiserait et puis l'évocation du concept freudien, entre autres freudien, de sublimation? Comment vous voyez ça?
Alors, moi, ce que je vois, c'est que les enfants, justement, enfin, pour moi, et ça fait un petit peu écho à la présentation que vous faisiez, en fait, c'est qu'ils ont une certaine innocence et une certaine force et l'espoir de vivre, par exemple, la joie qu'on perd et qui s'use au fil des années parce qu'il y a eu des déceptions, parce qu'on a appris à rêver quand on était petit et que le fait de se socialiser nous demande aussi, quelque part, de mettre ses rêves de côté. Et je ne sais pas si c'est bien en soi, en fait. Et je pense que c'est important de rester connecté. Quand on est artiste, on reste connecté, en fait, à ça, d'une certaine façon. Même si on ne l'exprime pas, même si les autres, en fait, ne le reconnaissent pas, c'est important pour soi de rester connecté, en fait, à cette force. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Alors, moi, il y a deux choses, enfin, deux idées auxquelles je tiens, c'est-à-dire que ce que j'évoque de l'enfantin est relativement différent de ce qui serait, si on voit ça à travers la psychanalyse, de l'ordre d'un refoulement de quelque chose. Dans mon idée, cet enfantin que je présente beaucoup plus comme quelque chose de l'ordre du percept, de l'ordre de l'affect et du percept premier, j'ai beaucoup insisté sur vision première et sensation première, est quelque chose qui est brut, voire brutal, mais qui est resté en nous, écarté certes, silencieux certes pour différentes raisons, mais qui n'est pas de l'ordre du refoulé. Ce n'est pas refoulé, c'est là. Et au fond, c'est là à disposition. Sauf que je n'ai pas les moyens de le convoquer. Je n'ai pas les moyens. J'aurais parlé davantage de littérature avec un très grand plaisir, mais par exemple, si j'y viens maintenant, il y a chez Michel Léris, par exemple, dont l'entreprise, en écrivant ce livre qui s'appelle « L'âge d'homme », qui est un livre éminemment intéressant, évidemment, pour des psychanalystes, mais aussi pour des artistes, en écrivant « L'âge d'homme », il a le projet d'écrire quelque chose concernant sa vie en général, voire sa vie sexuelle, sa vie sensible, sa vie esthétique, etc. Or, il part d'un a priori, enfin d'un choix délibéré. Il dit qu'il veut, en écrivant, il veut que l'écriture, ce soit une mise en danger. Ce choix-là, il ne sait pas trop ce que ça va donner, mais il veut que l'écriture, ce soit un risque. Or, ce choix-là est un choix artistique par excellence. Que l'écriture soit un risque va faire que quelque chose qui était là, disponible, va trouver l'endroit où se dire. C'est-à-dire que, par exemple, des choses qui peuvent paraître extrêmement ténues, enfin on retrouve Rousseau si on veut, extrêmement simples. Par exemple, j'aime beaucoup dans l'âge d'homme un moment où Michel Léris fait allusion à la façon dont tout enfant est un peu métaphysicien. C'est-à-dire enfant, la métaphysique, ça concerne beaucoup les enfants, hein, parce que c'est l'infini. Et il dit comment, un jour, enfant, il a eu une espèce de choc en découvrant ce que ça pouvait être l'infini, et il le dit parce que quelque chose revient, mais ce quelque chose était là, c'est l'expérience qu'il a en regardant enfant, il se souvient comment il voyait en faire, une boîte de cacao, sur laquelle il y avait une femme hollandaise qui tenait une boîte de cacao, sur laquelle il y avait une femme hollandaise qui tenait une boîte de cacao. Et l'enfant regarde, il déjeune comme ça, il a moitié endormi, regarde sa boîte de cacao, et à un moment donné, il dit, c'est ça l'infini. Et le mot infini, la hollandaise et le cacao, tout cela fait... Alors, je n'ai pas employé ce mot délibérément pendant la conférence, mais c'est un mot auquel je tiens beaucoup. Tout cela fait un bloc, et c'est ce que Gilles Deleuze appelait les blocs d'enfance, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'idée, de l'ordre de la sensation, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois de la pensée et de l'esthétique. Et la boîte de cacao, la hollandaise, Léris développe ça, on s'aperçoit qu'il y a une érotique formidable derrière, et c'est quelque chose, est-ce qu'on peut dire que c'était refoulé ? Non, c'était pas refoulé, c'était là. Mais dans ma vie d'adulte, je n'en avais strictement rien à faire. Qu'est-ce que je fais d'une boîte de cacao avec une hollandaise, peut-être une boîte de cacao qui n'existe plus du tout, quand je suis devenu vieux et grand et tout ce qu'on veut ? Rien. Et soudain, l'écriture, c'est-à-dire la puissance de l'écriture qui a décidé j'écrirai dans le risque, l'écriture permet à ceci de surgir. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est refoulé. Et de la même façon, ce n'est pas quelque chose qui relève exactement de ce qu'on appelle les souvenirs d'enfance. À force de travailler sur l'enfance, et c'est ce que je développe beaucoup dans ce livre, j'ai vraiment, vu, expérimenté, que ce qu'on appelle souvenirs d'enfance, c'est véritablement une refabrication adulte, et que ce que j'appelle l'enfantin, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que on dit « Ah oui, je me souviens, quand j'étais petit, je faisais ceci ». Il n'y a qu'à lire des quantités d'autobiographies pour s'apercevoir qu'en fait, on se refabrique une enfance en faisant intervenir, alors de façon plus ou moins authentique, comme on pourrait dire, ou plus ou moins... Mais en même temps, il y a une sorte de refabrication qui, malgré soi, relèvera de la convention, relèvera de, déjà de la chronologie. L'enfantin, il est achronologique. Et ça, c'est Proust qui le dit déjà. Proust, il nous dit très exactement que nous avons en nous de l'enfance achronologique, non chronologique. Donc, quand je dis, voilà, quand j'étais petit, j'ai ça, puis ensuite j'ai grandi, puis j'ai fait ci, puis mes parents étaient ci et ça, je suis dans autre chose. Donc, ni l'inconscient en tant que, si je prends strictement, façon strictement freudienne, l'inconscient étant ce qui a été refoulé pour un certain nombre de raisons, c'est pas refoulé. Et ni de l'ordre du souvenir d'enfance. C'est-à-dire que je dissocie. Alors là, je ne fais que réciter Gilles Deleuze, hein, dans son magnifique livre sur Kafka. Je différencie le bloc d'enfance et le souvenir d'enfance. Et ça, c'est au cœur de ce que je dis dans le livre sur le souvenir d'enfance. Le bloc d'enfance, c'était là en nous, cette espèce de boule, de bloc, avec ses, comme une roche avec ses veines, aussi bien de réflexion, c'est quoi l'infini, et de sensation, une hollandaise jeune avec un nœud dans les cheveux, etc., qui tient une boîte de cacao. Le bloc est là, et ce n'est pas exactement un souvenir, c'est un bloc. Voilà. Je sais pas, je suis pas maître du temps exactement, donc...
Oui, allô ?
Madame...
Est-ce qu'on m'entend ? Et je ne sais pas si... Est-ce qu'on m'entend ?
Ah, quelque chose m'arrive d'ailleurs.
Oui,
monsieur,
bonsoir.
Oui, allez-y.
En fait, j'ai deux questions, mais une qui va être un peu plus rapide que les deux autres. Vous m'entendez ? Oui ?
Parlez bien contre le micro.
Donc, je dis, en fait, j'ai deux questions, mais une qui est assez courte. C'est la première, est-ce que dans la canalisation de l'enfant, est-ce que dans l'énergie de l'enfant, est-ce qu'on peut retrouver ceci dans la photographie, par exemple ? La première utilisation de la photo, parce que vous avez beaucoup parlé du dessin, mais
oui.
Voilà, donc ça c'est la première question. La deuxième, c'est dans le panorama philosophique que vous avez fait, vous avez omis de parler, en fait, mais bon, c'est tout à votre honneur, que Il y a dans le Nouveau Testament, Jésus de Nazareth dit que pour entrer dans le royaume, il faut se construire comme un enfant. Et je voulais savoir quelles étaient les conséquences de cette rupture par rapport à un hébraïsme qui est assez différent, beaucoup basé sur l'initiation. Quelles en sont les conséquences sociales, philosophiques, etc. Donc, voilà.
Vaste domaine que j'évoque un peu dans le livre parce qu'effectivement c'est une question énorme que vous posez, donc je ne vais pas y répondre en une minute, je ferai juste dire qu'un autre jour nous nous reverrons et nous en reparlerons, mais que le christianisme surgisse en présentant la figure de Dieu, entre autres à travers la figure de l'enfant, est une petite révolution métaphysico-théologique qui a d'énormes conséquences sur le destin même du christianisme, et ça ce serait très très long à envisager, depuis les grands théologiens en passant par Max Weber et tant d'autres, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme. Par rapport à la photo, c'était votre première question, je dis très très vite parce que je crois qu'il faut qu'on finisse. La photo, évidemment, requiert la nécessité d'un appareil technique, et donc évidemment qui diffère largement de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le passage de la tête à la main, et puis ce corps énergique qui se projette dans une pointe. Donc on est tout à fait dans autre chose, mais il peut y avoir, et ça je crois que c'est aussi très très intéressant, il pourrait y avoir un usage qui peut être tout à fait enfantin pour le coup, de l'enregistrement de visuel qu'est la photographie. Donc les angles, il y a un film formidable, je dis, c'est une dernière remarque. Il y a un film formidable, j'ai oublié le nom de son auteur, qui s'appelait Yi Yi. C'est un film, je ne sais plus s'il est coréen, etc. Et qui mettait en scène un enfant qui a un appareil, je ne sais plus si c'est un Polaroid ou quelque chose comme ça, et qui fait n'importe quoi comme angle. Il est intéressé, il veut prendre les gens de dos. Alors il prend des nuques, il prend des... Et il se trouve face à une collection de choses qui n'ont rien à voir avec les photos traditionnelles qu'on pourrait prendre, et qui sont des photos prises par un enfant. Et du coup, ça fait une espèce de basculement dans la vision du monde qui est très intéressant aussi. Voilà. Merci.
Oui. En fin de compte, on pourrait dire que la nécessité fait... C'est ici, hein, je suis ici, sur votre droite. Sur votre droite.
Oui, d'accord, monsieur, oui.
En fin de compte, c'est la nécessité qui fait loi par rapport à l'enfant, puisque l'enfant n'a pas la maîtrise du langage et de l'écriture. Et donc, il doit s'exprimer, c'est une nécessité. Enfin, je le ressens comme ça, je ne sais pas si c'est juste, mais enfin bon, voilà. Par ailleurs, est-ce que dans la société, justement, les institutions comme l'éducation nationale ou d'autres institutions font que d'un seul coup on laisse les acquis qu'ont eu ces enfants quand ils étaient petits, c'est-à-dire en maternelle on apprend à dessiner et tout, et d'un seul coup il y a rupture et c'est l'écriture, et donc je me pose la question si ça joue pas non plus le fait de cette absence.
Oui, vous avez raison. Ensuite, il y a, disons, comment la pédagogie, l'enseignement va mettre un certain nombre de choses en place. Aujourd'hui, on sait bien quand même que les enseignants actuels en France ont une grande ouverture par rapport à toutes ces potentialités-là. Et que souvent, il y a une belle initiation qui est faite aussi à ce que peut être l'art moderne auprès des enfants, même si c'est quelque chose de très, très, très délicat et très difficile à faire. Mais évidemment, il faut que l'enfant se socialise, et à un moment donné, voilà. Mais on va peut-être arrêter là. Je vous remercie en tout cas. Je vous signale que quelques livres sont en vente tout à fait en haut à droite. Et voilà, je suis à votre disposition pour le temps qu'il nous reste, pour ceux qui veulent me parler plus personnellement. Voilà. Merci à tous. Merci.